Parlons Aviation, épisode 138. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'économie du transport aérien avec Paul. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 138 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 138e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, l'économie du transport aérien. Il s'agit d'un sujet un peu différent de ce que nous traitons d'habitude, mais je pense que c'est une facette intéressante de notre industrie qui est souvent discutée. Pour en parler avec nous, notre invité du mois est Paul Chiambaretto. Paul est professeur d'économie et de marketing à la Montpellier Business School. Il est également directeur de la chaise Pégase, dont l'objet d'étude principale est l'économie des industries aéronautiques et du transport aérien. Tout d'abord, nous nous poserons la question des spécificités économiques de l'aérien de manière générale, telles que ses aspects stratégiques et géopolitiques. Ensuite, nous irons en détail sur les évolutions récentes qu'a subi le secteur, avec notamment la montée en puissance des low-cost et la crise du Covid-19. Afin de tirer une perspective vers l'avenir, nous nous intéresserons aux défis à venir dans les prochaines décennies pour l'aviation, avec notamment les problématiques d'approvisionnement de pièces et de décarbonation. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/138. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Paul. Bonjour Paul et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ?
Alors bonjour, je suis Paul Chiambaretto. Je suis actuellement professeur de stratégie et marketing à Montpellier Business School. Et je suis le directeur de la chaire Pégase, donc une sorte de laboratoire privé qui est dédié à l'économie et au management du transport aérien et de l'aérospatial. Et on est d'ailleurs les seuls en France. Moi, j'ai un parcours qui est assez académique d'une certaine façon, puisque à l'issue de ma thèse de doctorat, j'ai été recruté à Montpellier Business School comme professeur. Je suis en même temps chercheur associé à l'École Polytechnique, donc où j'ai fait mon doctorat. Et en fait, tout au long de ma carrière, on va dire académique, et même au-delà de, auparavant dans le cadre de mes études, je me suis toujours intéressé au secteur aérien. C'est une passion depuis mon plus jeune âge. Et donc, finalement, j'ai toujours réussi à mettre le transport aérien au cœur de mes recherches, de mes enseignements. Et c'est quelque chose que j'ai un peu plus structuré depuis 2019 avec la création de la chaire Pégase et qui m'occupe pleinement.
Ce par quoi on pourrait commencer, c'est de se poser la question, pourquoi le transport aérien est-il un secteur économique un petit peu différent des autres? Je pense qu'on l'a vu à différentes reprises. Qu'est-ce que ça change par rapport à, par exemple, l'industrie de manière plus large ou d'autres secteurs économiques?
Alors, le transport aérien, c'est un secteur un peu particulier parce que déjà, c'est un secteur dans lequel l'État est souvent très fortement impliqué, que ce soit en France ou dans les autres pays. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est stratégique, qui va avoir un lien en termes de connectivité du pays. On arrête le transport aérien actuellement, finalement, il n'y aurait plus de flux entre la France et le reste du monde. Flux de passagers, flux de marchandises, flux d'idées, flux de capitaux et donc résultat. Le transport aérien, c'est une activité qui est stratégique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les États sont souvent impliqués. Le corollaire, c'est qu'on est dans un secteur où, à l'échelle mondiale, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont publiques ou semi-publiques, c'est-à-dire que l'État va être impliqué dans la gouvernance de ces entreprises. Ce qui va avoir pour effet d'amener des logiques politiques, finalement, dans la gestion de ces compagnies aériennes, de ces aéroports ou éventuellement de ces constructeurs qui vont coexister avec les logiques économiques classiques, de sorte qu'on va avoir beaucoup de compagnies aériennes ou d'aéroports qui ne seront pas forcément rentables, mais qui seront là surtout pour maintenir une forme de présence, une forme de service public, alors même que le service en question peut perdre de l'argent. Et donc, résultat, structurellement, on est sur un secteur qui est assez compliqué, où la majorité des acteurs perdent de l'argent ou lorsqu'ils en gagnent, ils n'en gagnent pas beaucoup. Et donc, on est sur un secteur qui est, au final, très vulnérable, très sensible aux différents chocs. Alors, les chocs, ils peuvent être de plein de natures différentes. Ça peut être des chocs géopolitiques, on va avoir une guerre qui va se déclencher entre deux pays, donc on n'aura plus le droit de voler au-dessus. Ça peut être un choc épidémique, comme on a connu avec le Covid. Ça peut être un choc économique, comme avec la crise des subprimes en 2008. Et donc, résultat, en fait, parce qu'on est dans un secteur qui n'a pas beaucoup de marge au sens financier, finalement, dès que quelque chose va se passer dans l'environnement, les compagnies aériennes, les aéroports vont être très fortement affectés. Et donc, on est sur un secteur avec beaucoup de mortalité d'un point de vue économique. On a des compagnies aériennes qui sont créées chaque année, mais on a aussi beaucoup de compagnies aériennes qui meurent chaque année.
Vous avez mentionné cette notion du privé versus le public. S'il y a une tendance assez forte, alors est-ce qu'elle est encore actuelle ou pas, c'est difficile à dire, mais il y a eu beaucoup de nouvelles compagnies avec notamment des low cost comme Ryanair, comme EasyJet, en tout cas en Europe, aussi Wizz Air, qui sont d'immenses compagnies privées. Qu'est-ce que ça a changé, ça, d'un point de vue de l'écosystème économique?
Alors, il y a deux questions dans votre question. Tout d'abord, sur le volet public, en effet, historiquement, les États étaient très présents au capital des compagnies aériennes. Et à partir des vagues de libéralisation du transport aérien, donc 1978 aux États-Unis et 92 avec une implémentation en 97 en Europe, les États se sont petit à petit désengagés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin de libérer des fonds et ça permettait aux compagnies aériennes traditionnelles, entre guillemets, de devenir un peu plus agiles et de mieux faire face à la concurrence des compagnies à bas coût. Pour autant, le Covid est passé par là et en fait, de nombreux États sont remontés au capital d'un certain nombre de compagnies aériennes traditionnelles pour pouvoir les sauver. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, les compagnies aériennes, elles sont un peu comme les banques pendant la crise des subprimes, donc en 2008. Elles sont too big to fail, elles sont trop grosses pour faire faillite ou pour disparaître. Et donc, résultat, les États, en particulier pour les compagnies nationales, se sont dit, on ne peut pas se permettre que Air France, que Lufthansa, que British Airways fassent faillite. On va monter au capital, on va les aider par des systèmes de prêts, de subventions en fonction des pays. Et donc, résultat, le transport aérien est redevenu un peu plus central, en tout cas dans les stratégies des gouvernements. Ça ne veut pas dire pour autant que les gouvernements aident les compagnies aériennes ou les aéroports, loin de là, mais en tout cas, ils sont un peu plus remontés au capital et donc ils jouent un rôle un peu plus croissant dans la gouvernance. Et en parallèle de ça, on a des acteurs donc qui sont des nouveaux entrants, qui sont essentiellement arrivés après la libéralisation du transport aérien. Donc, les fameuses low cost, vous parliez d'EasyJet, de Ryanair, de Wizz, il y en a bien d'autres. Et en fait, ces acteurs-là, eux, pour le coup, ils ont une approche qui est très, très différente. L'État est complètement absent de leur management. On est sur une logique privée qui est un peu poussée à l'extrême, parfois chez certaines compagnies aériennes. Et où, pour le coup, la seule variable qui compte, c'est la variable économique, la variable financière, pour faire plaisir aux parties prenantes, aux investisseurs, aux actionnaires. Et résultat, on est beaucoup moins dans cette considération de service public que l'on peut observer chez les opérateurs traditionnels.
Donc, vous avez parlé de la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a beaucoup impacté le transport aérien. Si on regarde un petit peu donc en arrière, à cette époque-là, qu'est-ce que cette crise avait changé à l'aérien? Parce que finalement, il y a pas mal de compagnies aériennes qui existaient à cette époque-là, qu'on retrouve aujourd'hui, dont les grosses majors que vous avez mentionnées, et puis les low-cost également.
Alors, contrairement à la crise du Covid, la crise des subprimes, elle a surtout touché le continent nord-américain en termes de trafic. Et surtout, d'un point de vue financier, les compagnies aériennes américaines. Et l'avantage, c'est que les compagnies aériennes américaines, elles peuvent se mettre sous le droit des faillites américains, sous quelque chose qu'on appelle le Chapter 11, qui est une sorte de mode de protection des faillites qui leur permet en fait d'apurer une partie de leur dette et de renégocier les différents crédits qu'elles peuvent avoir. Et paradoxalement, la crise des subprimes de 2008, elle a eu pour effet de pousser les compagnies aériennes américaines à se réformer, à se restructurer, à devenir plus compétitives. Et finalement, ces compagnies américaines faisant ce travail-là, les compagnies européennes, de manière symétrique, ont dû le faire aussi pour devenir elles aussi plus compétitives. Et c'est ce qui a permis, au final, dans la période 2015-2019, d'avoir une période où les compagnies aériennes ont enfin fait des profits à l'échelle de l'ensemble du secteur aérien. Alors, elles ont été aidées, bien évidemment, par un cours du baril de pétrole qui était beaucoup plus faible que les années précédentes. Mais ce sont justement tous ces plans de productivité, toutes ces réformes qui ont été mises en place à l'issue de la crise des subprimes qui ont abouti à cette période de profit juste avant le Covid. Alors bien évidemment, il n'y avait pas que ces plans de réforme, il y a eu aussi de la concentration à l'intérieur du secteur américain. On peut se souvenir par exemple de la fusion entre United et Continental. L'idée, voilà, c'était de concentrer un peu plus le marché, peut-être réduire un tout petit peu la concurrence, mais en tout cas, s'assurer qu'on fasse des économies d'échelle et qu'on ait des acteurs qui soient plus compétitifs. Et actuellement, que ce soit avant le Covid ou maintenant, là, dans la phase actuelle de reprise, les compagnies aériennes américaines sont celles qui, encore une fois, tirent le mieux leur épingle du jeu.
Donc, on peut pas ne pas mentionner la crise du Covid, surtout que vous l'avez mentionné, puis c'est quelque chose qui est assez frais dans les mémoires. On peut assez facilement, je pense, avoir l'impression que la crise du Covid, ça a un peu gelé les choses, puis elles sont reparties telles qu'elles étaient avant. Est-ce que cette impression est juste ou est-ce que ça a quand même un peu rebattu certaines cartes?
Alors, la crise du Covid-19, elle a été majeure pour le secteur aérien. On dit généralement que c'est le plus gros choc dans l'histoire du transport aérien, ou en tout cas dans l'histoire du transport aérien commercial. Pour rappel, à l'échelle de l'année 2020, on a eu une baisse du trafic mondial de l'ordre de 60%. Au pire de la crise, donc on peut penser à avril 2020, par exemple, pendant le premier confinement, on avait une baisse du trafic qui était de moins 90, parfois moins 99% certaines semaines à l'échelle de la France, donc quelque chose d'assez inimaginable. Donc, il y a un choc d'une intensité phénoménale, d'une durée aussi très très longue, puisque fin 2023, donc on a eu 4,3 milliards de passagers aériens transportés. On est à peu près à 95-97% du niveau de 2019. Donc, 3 ans après, malgré tout, on n'a toujours pas retrouvé le niveau, mais on n'en est pas loin. Donc, une crise très très intense. Alors, concrètement, est-ce que ça a changé grand-chose ? Sur le nombre de passagers, ce qu'on observe un peu dans le secteur, c'est que tout simplement, il y a eu 2 à 3 années de vide, mais que la croissance du trafic aérien, à l'échelle mondiale en tout cas, elle est toujours là. Et donc finalement, c'est comme si on avait fait une pause de 3 ans et qu'on repartait. Mais pour autant, ça c'est la vision un peu macroéconomique, la vision un peu globale. Et quand on zoome un peu plus près, on se rend compte qu'il s'est passé des choses pendant ces 3 dernières années. À l'échelle européenne, il y a 2 points qui, à mon sens, sont importants. Le fait que la crise du Covid, elle a été l'occasion de renforcer les compagnies à bas coût. Pourquoi ? Parce que les compagnies à bas coût, en fait, elles ont une structure de coût qui est beaucoup plus variable, beaucoup plus flexible que les compagnies aériennes traditionnelles. Donc, quand il a fallu arrêter les vols, elles ont été relativement moins pénalisées que les compagnies aériennes traditionnelles. Et lorsqu'il y a eu des possibilités de reprise à l'été 2020, l'été 2021, etc., essentiellement à l'intérieur de l'Europe, les compagnies à bas coût, elles fonctionnaient quasiment à la totalité de leur capacité, alors que les compagnies traditionnelles, du Air France, Lufthansa, British Airways, en fait, elles perdent de l'argent sur le court et le moyen courrier pour pouvoir en gagner sur le long courrier. Donc, résultat, en fait, pendant ces 2-3 ans de crise, les compagnies à bas coût, elles n'ont pas vraiment vu de différence. Tandis que les compagnies aériennes traditionnelles, elles ont beaucoup plus souffert. Et donc, l'écart en termes de performance économique entre les low cost et les compagnies traditionnelles s'est vraiment creusé pendant la crise. Et les low cost, on peut véritablement dire que ce sont les grandes gagnantes de la crise. Un deuxième point qui a quand même pas mal changé au cours de ces 3 dernières années, c'est l'importance des enjeux environnementaux. Le secteur aérien en avait conscience déjà avant, mais c'est devenu quelque chose d'assez incontournable à l'issue de la crise du Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos compagnies aériennes étant en difficulté et nécessitant des prêts, des aides, des subventions, etc., un certain nombre d'ONG anti-aériens ont profité de l'opportunité pour dire « Mais attention, il ne faut pas qu'on donne simplement de l'argent aux compagnies aériennes, aux constructeurs, aux aéroports. Il faut s'assurer qu'elles prennent des contreparties, qu'elles respectent un certain nombre de contreparties environnementales. » Et donc, résultat, les sujets environnementaux sont devenus beaucoup plus présents à l'issue de la crise du Covid-19. Et actuellement, et c'est un sujet qui est très européen, plus aucune compagnie aérienne ne peut négliger l'aspect environnemental. C'est devenu la priorité numéro 1, d'une certaine façon, dans la stratégie des compagnies aériennes européennes. Pour autant, Ce que je disais, c'est que c'est vraiment un sujet européen, c'est-à-dire qu'il suffit de quitter l'Europe, d'aller aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, ces sujets de développement durable ou de réduction de l'empreinte environnementale du transport aérien est beaucoup plus secondaire dans les priorités des acteurs dans ces autres continents.
On s'est intéressé à l'évolution des compagnies aériennes, mais derrière cela va se poser la question de l'évolution du passager moyen. Est-ce que grâce à la diversité des acteurs, grâce aux modifications qu'ont opéré un certain nombre d'acteurs, est-ce que le passager moyen début 2000, avant la crise des subprimes, versus aujourd'hui, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui prennent l'avion? Est-ce que le profil a un peu changé et peut-être aussi leurs habitudes?
Alors, depuis la libéralisation du transport aérien en Europe, c'est vrai que on a pu observer une véritable démocratisation du transport aérien. On a souvent tendance à dire que les low cost, elles ont piqué des parts de marché aux compagnies aériennes traditionnelles. La réalité, elle est un peu plus nuancée. C'est surtout que les low cost ont réussi à faire grossir la taille du marché aérien, donc elles ont fait grossir le gâteau, tout en prenant une part tout à fait significative. Mais au final, elles ont permis à beaucoup plus de personnes de voyager. De sorte que actuellement, c'est ce qu'on avait mis en évidence dans certaines études de la Sharp Eagles, 91% des Français majeurs ont pris l'avion au moins une fois dans leur vie. Et juste avant le Covid, donc en 2019, on avait à peu près 60 à 65% des Français qui prenaient l'avion au moins une fois dans leur vie, dans l'année, pardon. 60 à 65% des Français qui prenaient l'avion au moins une fois dans l'année. Donc, on est sur un mode de transport qui est loin d'être si élitiste qu'on le pensait. Et globalement, on dit toujours, on oppose assez bêtement le transport aérien des riches versus le train des pauvres. La réalité, elle est malheureusement nuancée encore une fois. Et en fait, les catégories socioprofessionnelles qu'on va retrouver dans l'avion sont globalement les mêmes que celles qu'on va retrouver dans le TGV. Et en revanche, celles qu'on va trouver dans le TGV sont très différentes de celles qu'on va retrouver dans le TER ou dans l'intercité. Donc, globalement, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc oui, le transport aérien, sur les 20 dernières années, c'est un transport aérien relativement accessible, avec des prix qui sont plus bas, avec des personnes qui vont prendre plus souvent l'avion, ou ne serait-ce qu'une fois par an, ou une fois tous les deux ans, mais des personnes qui finalement ne l'auraient pas pris avant vont découvrir l'avion. Tant pour des raisons professionnelles, alors ça va représenter à peu près 25% des passagers. Puis après, dedans, on va avoir 75% de passagers dits loisirs qui vont être répartis entre des passagers qui voyagent pour des raisons touristiques et des passagers dits VFR. Alors VFR, ça veut dire Visiting Friends and Relatives. C'est des personnes qui vont voyager pour aller voir de la famille, des amis. Ce sont des personnes qui peuvent retourner dans leur pays ou dans leur région d'origine pour aller voir leurs parents, leurs grands-parents parce qu'ils travaillent ailleurs. Et donc, finalement, le transport aérien, c'est aussi ça. Alors maintenant, est-ce que depuis le Covid, ça a changé? Pour l'instant, on ne voit pas de changement significatif dans la composition des passagers. Le seul véritable changement qu'on observe actuellement concerne les voyageurs professionnels, donc les voyageurs d'affaires. Ces voyageurs-là, ils prenaient très souvent l'avion. C'était une clientèle qui était cruciale pour les compagnies aériennes. Et le problème, c'est que pendant le Covid, ils se sont rendus compte que la visioconférence existait. Et finalement, pour les employeurs, cette visioconférence, c'est une bénédiction parce que ça coûte moins cher. Ça permet de réduire les émissions de CO2 de l'entreprise. Et donc, résultat, de plus en plus d'entreprises poussent leurs cadres, leurs salariés à voyager moins souvent. Et donc, on considère qu'actuellement, il y a un manque à gagner de l'ordre de 25 à 30% sur les voyageurs professionnels. Pour autant, même si on aura à terme une baisse, et j'en suis convaincu, ces voyageurs professionnels se rendent de plus en plus compte qu'on ne peut pas tout faire derrière un écran et que quand il s'agit d'aller négocier un contrat, d'aller demander des financements, rien ne vaut le fait d'aller voir la personne en vrai, parce que c'est là qu'on est le plus convaincant et c'est là qu'on montre que la personne a de l'importance à nos yeux.
On a plusieurs fois évoqué la différence, l'opposition entre les low cost et les majors. Néanmoins, d'un point de vue de passagers moyens, comme on peut tous l'être une fois de temps en temps, quand on prend l'avion pour les vacances ou quoi, si on regarde par exemple sur du moyen courrier, la différence de tarification entre une major et une low cost, on a quand même de plus en plus de similitudes, avec de plus en plus d'options qui sont payantes de part et d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas également une sorte de convergence entre le modèle de la major et de la low cost sur certains aspects?
Alors absolument. En effet, quand on pense au modèle des compagnies à bas coût, au modèle des legacies, donc des compagnies aériennes traditionnelles, on a toujours des visions un peu extrêmes des choses. On imagine un Air France d'un côté, un Ryanair de l'autre, un qui va desservir Roissy, tandis que l'autre va desservir Beauvais, etc. La réalité, elle est quand même de plus en plus contrastée. Alors, il y a quelques acteurs qui sont un peu des exceptions. On peut penser à Ryanair ou à Wizz, qui restent des ultra low cost d'une certaine façon et qui n'ont pas changé leur business model. Et à l'inverse, on a des acteurs un peu plus intermédiaires, que parfois on appelle du middle cost. Donc, ce serait du EasyJet, ce serait du Vueling, du Volotea, des acteurs qui vont desservir les aéroports classiques, principaux, qui vont être référencés par les agences de voyage, par les GDS, donc des acteurs qui vont viser aussi les voyageurs professionnels. Et en effet, ces entreprises-là, ces compagnies-là, ben, elles vont avoir des prix qui seront de temps en temps assez proches des compagnies aériennes traditionnelles qui, elles, de leur côté, ont tout fait pour essayer de réduire leurs coûts, réduire leurs prix, pour être assez compétitives. Donc, il y a une certaine homogénéisation de l'offre, en tout cas une forme de convergence. Pour autant, alors, ce n'est pas parce qu'il y a une convergence de l'offre ou du business model qu'il y a une homogénéité des performances économiques. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas parce que Air France essaye de copier EasyJet que Air France arrive à avoir les performances économiques, les performances financières dans EasyJet. Et inversement, ce n'est pas parce qu'un Vueling va monter en gamme et va copier finalement ce que fait un Iberia, par exemple, que la performance financière d'un Vueling va fortement baisser. Donc en fait, même s'il y a une forme de convergence dans les business models, d'un point de vue financier, il y a quand même de très très gros écarts d'un marché à l'autre.
Qu'est-ce qui va expliquer dans ce cas-là ces différences financières? Parce que d'un point de vue passager, entre un EasyJet et un Air France à travers sur une même liaison, ça change de moins en moins de choses, parce qu'on doit payer le bagage. Ça, qu'est-ce qui va expliquer cette différence aussi grande entre les deux entreprises et le résultat final?
Alors, la majorité de la différence de coût, elle est relativement invisible pour le passager parce qu'elle ne se passe pas forcément dans l'avion. La seule différence que va pouvoir voir le passager éventuellement, ça peut être aller au niveau de l'embarquement qui va pouvoir se faire directement à la passerelle pour une compagnie aérienne traditionnelle et plutôt au large, c'est-à-dire avec un embarquement à pied ou en navette pour la compagnie aérienne low cost lorsqu'elle est dans son aéroport principal. Mais ce sont surtout en fait sur les coûts de structure qu'on va pouvoir observer des différences. C'est-à-dire finalement toutes les fonctions support qui sont au siège, avec des équipes qui vont être beaucoup plus restreintes dans les compagnies low cost que dans les compagnies traditionnelles. On va avoir des écarts aussi en termes de coût des avions ou de coût de maintenance des avions, parce que de manière générale, les low cost, elles ont des avions qui sont un peu plus récents et donc qui ont des coûts d'exploitation et des coûts de maintenance qui sont un peu plus faibles. On va surtout avoir des écarts en termes de salaire, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de salaire, tant pour les personnels navigants que pour les personnels au sol, entre les compagnies aériennes traditionnelles et les low-cost. Globalement, nos low-cost, elles vont avoir tendance aussi à externaliser, c'est-à-dire à confier à des prestataires extérieurs un certain nombre de fonctions qui sont plutôt faites en interne par les compagnies aériennes traditionnelles. Et en fait, finalement, à chaque fois, ce sont des petites économies de quelques pourcents, mais mises bout à bout, à la fin, ça amène à de gros écarts en termes de coûts. Et donc, finalement, ce coût, c'est ce qui va définir le prix minimum que va pouvoir proposer une compagnie aérienne. Et donc, ça va amener à des écarts de coûts. Pour autant, et c'est là que c'est intéressant, si on réfléchit un peu en prenant l'optique d'une compagnie aérienne traditionnelle, moi, je suis convaincu qu'on naît low cost, ça veut dire on naît au sens naître low cost, mais on ne le devient pas. C'est très difficile de faire baisser ses coûts, au même titre que c'est très difficile de demander à un salarié demain, maintenant, on va baisser de 30% ton salaire. Et donc, résultat, le meilleur moyen, c'est de créer d'acheter des filiales low cost. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine façon, en tout cas sur le domestique et l'intra-européen, l'avenir d'Air France, c'est Transavia, qui a une structure de coût qui est beaucoup plus compétitive et qui permet en fait à Transavia de proposer des prix relativement similaires en tout cas aux autres low cost. Et donc on va trouver ce phénomène-là chez dans le groupe IAG. Ben pour le coup, c'est le groupe IAG avec Iberia qui a fait l'acquisition de Vueling. Donc on va trouver finalement cette idée à chaque fois de se dire ben la compagnie aérienne traditionnelle, elle ne peut plus lutter. Et donc, en fait, elle va avoir sa propre filiale low cost qui va essayer de survivre tant bien que mal sur le marché européen.
On a surtout parlé de low cost dans un contexte moyen courrier. Néanmoins, avant le Covid, il y avait une... Alors, je ne sais pas si on peut parler de mode, mais en tout cas, une forte tendance. Il y avait eu Norwegian et aussi d'autres compagnies qui s'étaient lancées dans le low cost long courrier. On s'en parlait beaucoup, beaucoup avec le Covid. Néanmoins, depuis, c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus silencieux. Est-ce que ça, c'était une expérience qui a échoué? Est-ce que c'est juste qu'on a passé la vague du hype et puis du coup, ça revient? Où est-ce qu'on en est sur le low cost long courrier, justement?
Alors, à titre personnel, je n'ai jamais été vraiment convaincu par ce concept de low cost long courrier. Alors, il y a certains acteurs qui vont dire qu'il y a toujours du low cost long courrier. Il y avait XL Airways qui le disait, bon, ça ne l'aura pas très bien réussi. Il y a FrenchBee, par exemple, qui considère que c'est du low cost long courrier. Alors, concrètement, le low cost long courrier, c'est quoi? C'est essayer de dire, je vais répliquer le modèle low cost sur des routes qui font 4, 6, 8 heures. Très bien. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que autant sur le court et moyen courrier, le low cost était véritablement différent en termes de modèle d'exploitation, en termes de modèle commercial de ce que faisaient les compagnies aériennes traditionnelles, autant sur le long courrier, les marges de manœuvre sont beaucoup plus limitées. Vous êtes une compagnie aérienne traditionnelle, Air France, Lufthansa, British, Iberia, ce que vous voulez. Finalement, votre avion, votre 777, il va voler déjà 16 ou 18 heures par jour. Et donc, finalement, on ne va pas pouvoir le faire voler beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement avoir le temps qu'il s'arrête, de le nettoyer, de le refueler. Et en fait, les marges de manœuvre sont relativement limitées. On ne pourrait pas dire, je vais rajouter encore un vol supplémentaire dans la journée, parce qu'en fait, l'avion est déjà exploité au maximum de ce qu'il peut être exploité. Il en est de même pour l'équipage. Autant quand on est sur du court et moyen courrier en Europe, on peut proposer un équipage qui a encore une ou deux heures de marge d'aller faire un vol en plus. Autant un équipage qui a traversé l'Atlantique, ben en fait, il ne va pas pouvoir faire le retour. C'est interdit par la loi, ils ont des temps de repos obligatoires qui font que, ben, on ne peut pas faire ça. Pareil, ce qui fait le succès d'une compagnie aérienne low cost classique sur le court et moyen courrier, c'est le fait d'avoir un seul type de siège dans tout l'avion avec une très forte densité de la cabine. Le problème, c'est que sur le long courrier, ce qui fait la rentabilité d'un vol long courrier pour n'importe quelle compagnie, en fait, ce sont les passagers qui voyagent à l'avant de l'avion, donc en classe éco premium, en classe affaires, en première, parce que ce sont eux qui financent les billets qui sont à l'arrière de l'avion. Et donc, résultat, envisager un avion avec 100% de classe économique sur du long courrier, c'est quelque chose qui est très difficile et qui ne serait pas rentable. Et d'ailleurs, même Norwegian, par exemple, proposait des sièges en sorte de classe affaires un peu améliorée à l'avant de l'avion. Donc, en fait, ceux qui font du... Alors, on a aussi la question, par exemple, de la nourriture. Est-ce qu'on peut accepter pendant 8 heures de ne pas servir un verre d'eau à quelqu'un? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un risque de danger, même pour la santé du passager? Tous ces éléments pour dire qu'en fait... Oui, le low cost long courrier peut exister, mais on va gratter quelques 10, 15, peut-être 20% de réduction des coûts, ce qui est très bien, mais on sera loin des 30, 40, 50% de réduction des coûts qu'on peut avoir sur le court et moyen courrier. Et donc, résultat, oui, en fait, ce sont des compagnies aériennes qui sont un peu plus efficaces sur le long courrier, mais ce sont pas forcément, elles n'ont pas un côté aussi disruptif, aussi révolutionnaire que sur le court et moyen courrier.
Tout à l'heure, vous avez mentionné les enjeux environnementaux qui sont ceux dont on a beaucoup parlé ces dernières années et c'est évidemment quelque chose qui ne va pas aller en diminuant. Quelle a été l'approche du secteur aérien pour essayer de faire face à ces critiques qui sont parfois assez justifiées? Quel est un peu leur plan, en sachant que cette notion d'avion complètement décarboné, tel qu'on entend l'avion à hydrogène, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose qui reste un concept assez lointain et incertain, je pense.
Alors, sur les enjeux environnementaux du transport aérien, en effet, ça devient une priorité. Alors, c'était déjà indirectement au cœur des occupations des constructeurs et des compagnies aériennes. Pourquoi ? Parce que finalement, le carburant, c'est globalement le premier ou le deuxième poste de dépense d'une compagnie aérienne, entre 25 et 30% des coûts. Et donc, ça faisait des décennies que les constructeurs faisaient tout pour réduire la consommation des moteurs ou des avions de manière générale. Et ça tombait bien parce que ça permettait de réduire les émissions de CO2. Mais si vous voulez, c'était un effet, une sorte d'externalité positive, un side effect dont tout le monde était content. Mais finalement, ce n'était pas le cœur du sujet. Là, actuellement, quand même, il y a une vraie prise de conscience qui s'explique par le fait que oui, on arrive à faire des progrès et à réduire la consommation des avions ou les émissions de CO2 par passager. Le problème, c'est que le trafic aérien croît plus vite que la réduction par passager. Et donc, au final, les émissions du transport aérien augmentent en valeur absolue et c'est ça qui est problématique. Le transport aérien se réfugie souvent dans le fait qu'il ne représente que 2 à 3% des émissions de CO2. Mais en fait, et que cette part est relativement stable dans le temps. Mais en fait, c'est parce qu'au global, à l'échelle mondiale, on pollue plus, on émet plus de CO2. Donc en fait, on reste stable, mais parce que le dénominateur grossit aussi. Donc, c'est pas forcément un bon signe en tant que tel. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est assez crucial pour les compagnies aériennes parce qu'il en va en fait de leur acceptabilité au sens social du terme, c'est-à-dire finalement se poser la question de est-ce qu'une entreprise, elle est légitime pour continuer à opérer. Et au même titre que dans les années 60, 70, des entreprises, on peut penser à Marlboro, on peut penser donc dans la cigarette, on peut penser à BP par exemple dans le secteur pétrolier qui était considéré comme tout à fait légitime. Maintenant, ce sont des entreprises qui sont décriées, stigmatisées d'une certaine façon, et on considère que ces entreprises n'ont plus beaucoup de raisons d'être, ou en tout cas que leur activité peut être contraire au bien-être de la société. Et le grand risque actuellement pour les compagnies aériennes, c'est qu'elles se retrouvent dans une telle situation où elles deviennent stigmatisées, illégitimes d'une certaine façon, où on puisse leur dire, après tout, est-ce que prendre l'avion, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour la société, pour la planète? Et donc, il y a une véritable prise de conscience. Alors, depuis quelques années, une très forte accélération avec le phénomène du flight chain qui s'est développé à partir de 2017-2018, et puis là avec la crise du Covid, sur finalement la question de la légitimité de l'activité aérienne, sur mais pourquoi est-ce qu'on continue de prendre l'avion? Et on peut apporter une réponse technologique, c'est ce qu'essaye de faire le secteur aérien, en disant on va avoir des moteurs plus verts, on va utiliser les SAF, donc les carburants d'aviation durable, on va utiliser des matériaux composites, etc. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça dans la démarche et qu'en fait, le gros sujet du transport aérien, c'est de justifier, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il existe et pourquoi est-ce qu'on a intérêt à continuer à prendre l'avion. Ma conviction personnelle, et je le répète souvent aux acteurs du transport aérien, c'est que quand bien même un avion vert, c'est-à-dire sans émission, existerait, on continuerait très probablement de critiquer l'avion. Pourquoi ? Parce que l'avion représente une sorte de symbole. C'est le symbole de la mondialisation, c'est le symbole des riches, à tort, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est le symbole des riches. C'est le symbole de l'ouverture au monde. C'est le symbole de certaines formes de capitalisme, etc. Et en fait, tout le monde n'est pas forcément pour tout ça. Et au même titre qu'à l'époque, on allait démonter des McDo au début des années 2000, on peut tout à fait penser que l'avion est le symbole à abattre quand on est contre la mondialisation.
Vous avez mentionné ces solutions techniques, notamment le biocarburant. On entend, t'en parler une fois de temps en temps. Quelle est la réalité économique derrière ça? Parce que bien sûr, les volumes de kérosène sont tellement énormes qu'il paraît difficilement envisageable de reproduire ça en SAF, surtout que c'est plus cher. Quelle est un peu l'équation économique pour les compagnies qui jouent cette campagne sur l'image, mais qui se retrouvent aussi face à des limites d'approvisionnement et ce genre de choses, avec le SAF notamment, qui est souvent donné comme une des solutions valables?
Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a un point de bascule très intéressant sur le secteur aérien. Historiquement, il était dans l'intérêt économique égoïste des compagnies aériennes de réduire leurs émissions de CO2, parce qu'en fait, en ayant des moteurs plus verts, elles réduisaient leur consommation de carburant, et c'était une partie importante de leur coût, donc au final, ça leur faisait gagner de l'argent. Là, avec les SAF, la situation, elle est un peu plus compliquée. Donc, les SAF, les carburants d'aviation durable, en moyenne, ce sont des carburants qui vont permettre de réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2. Donc, c'est pour ça que tout le secteur mise dessus. Mais les SAF ont un gros défaut, en particulier en Europe, c'est qu'ils sont 4 à 6 fois plus chers que le kérosène classique. Et donc, résultat, pour le coup, les compagnies aériennes se retrouvent dans une situation un peu compliquée où, pour devenir plus vertes, eh ben, il va falloir qu'elles dépensent plus d'argent et donc, elles vont se retrouver cette fois-ci à avoir des intérêts économiques et écologiques qui ne sont plus alignés, comme c'était le cas par le passé. Donc, il y a une première question qui est une question de coût. Les SAF coûtent plus cher que le kérosène classique, donc les compagnies aériennes n'ont pas forcément envie de le faire. Pour les inciter à le faire, le législateur, par exemple, à l'échelle européenne, donc il y a un règlement européen qui est passé fin 2023, qui s'appelle Refuel EU Aviation, qui va forcer les compagnies aériennes au départ de l'Europe à avoir une part croissante de carburant d'aviation durable dans les réservoirs. Donc l'idée étant de mixer forcer les compagnies aériennes à intégrer une part croissante de carburant d'aviation durable. Le problème actuellement, c'est que l'offre de carburant d'aviation durable, que ce soit des carburants d'aviation, on va dire, à base de matière organique, ou que ce soit des carburants d'aviation durable synthétiques, en fait, il n'y en a pas assez sur le marché. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, c'est parce qu'on n'a pas forcément les ressources, finalement, pour pouvoir en produire suffisamment. Donc ça, c'est le cas sur les carburants d'aviation durable, entre guillemets, organiques, qui sont issus de déchets agricoles, de déchets de la foresterie, de graisse animale, par exemple. Et en fait, ces carburants d'aviation durable, ce qu'ils ont comme problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de biomasse pour pouvoir répondre à l'ensemble du besoin du marché aérien. Donc, le secteur aérien se dit, il n'y a pas de souci, on va essayer de réfléchir à d'autres formes de carburants d'aviation durable. Et donc, on a des nouvelles générations qui s'appellent les ISAF, ou les SAF synthétiques, où pour le coup, on va jouer plutôt sur des réactions chimiques. Le problème, c'est que pour mettre en place cette réaction chimique, on va avoir besoin d'énormément d'énergie. Et on veut idéalement que cette énergie soit décarbonée, donc ça veut dire qu'il nous faut de l'électricité, donc de l'électricité verte. Et le problème, c'est que les quantités d'énergie qui seraient nécessaires pour pouvoir produire l'ensemble de ces ISAF sont tellement importantes que cela forcerait les pays à faire des arbitrages entre l'électricité qui irait à l'aviation et l'électricité qui irait dans d'autres secteurs. Et donc, la complexité, elle est là à court terme, et ce qui explique pourquoi, à l'instant T, en fait, la production de SAF, peu importe le type de SAF, est relativement limitée. Et en parallèle, jusqu'il y a quelques mois, on considérait que c'était un pari technologique, quelque chose de relativement risqué. Et donc, résultat, il n'y avait pas véritablement de construction de filière avec des producteurs, des raffineurs, des distributeurs, etc. Alors, ça va dans le bon sens. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il y a justement ce règlement européen, on sait qu'il va y avoir une taille de marché minimale qui va exister. Depuis qu'il y a aussi des appels à manifestation d'intérêt qui sont coordonnés par l'État, ça va dans le bon sens. Mais malgré tout, à l'instant T, les compagnies aériennes, en fait, elles se battent pour pouvoir pour avoir du SAF, tout simplement. Et avec un dernier petit point quand même que je voudrais mentionner sur ce sujet, c'est le fait que si les SAF sont 4 à 6 fois plus chers que le kérosène en Europe, ils sont en revanche aux États-Unis en moyenne 2 fois plus chers que le kérosène. Pourquoi? parce que les Américains, en particulier sous l'impulsion de Joe Biden, ont décidé de très fortement subventionner et aider les activités environnementales, et en particulier le développement de SAF. Et en cela, les Américains ont une véritable politique industrielle et une politique environnementale que nous, en Europe, malheureusement, on n'arrive pas à avoir. Quand il s'agit de parler d'aviation verte en Europe, on est plutôt dans une optique qui est punitive, légale, où on va forcer des compagnies aériennes à faire quelque chose, même si industriellement, il n'y a pas forcément la production de SAF pour répondre aux attentes de la loi.
Un autre défi qui n'est pas seulement le futur des compagnies aériennes, mais déjà le présent, c'est tout ce qui est les défis de la supply chain, donc de leurs fournisseurs. Le meilleur exemple dont on entend parler, on a l'impression, une fois par mois, c'est Boeing, avec les différents arrêts de production, que ce soit le 737 MAX, le 787, mais également Airbus, avec les problèmes de moteurs Pratt et Whitney. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est considéré d'un point de vue économique comme quelque chose de passager, ou est-ce que c'est quelque chose qui, quand même, on se doute, devrait devenir un peu plus durable?
La tendance à l'externalisation au niveau de la construction aérienne, c'est quelque chose qui a commencé, ou en tout cas qui a été bien visible à partir des années 2000, où le 787, le Dreamliner de Boeing, avait pris beaucoup de retard à l'époque pour son lancement, précisément parce que une part trop importante de la production avait été externalisée. Et résultat, le programme avait pris du retard et Boeing avait dû compenser, entre guillemets, les compagnies aériennes clientes. Et finalement, comment est-ce qu'on explique cette externalisation? Parce que un avion, c'est de plus en plus complexe. Ça nécessite des technologies qui sont de pointe. Et résultat, un seul constructeur ne peut pas tout maîtriser d'une certaine façon. Et donc, au final, que ce soit Airbus ou que ce soit Boeing, ces constructeurs ne sont plus vraiment des constructeurs au sens strict. Pour moi, ce sont des assembleurs, ce sont des intégrateurs qui vont se concentrer d'abord sur la partie en amont, c'est-à-dire tout ce qui est recherche et développement, développement de nouveaux avions, etc. Et sur la partie assemblage à la fin, mais en revanche, la production des différentes pièces, des différentes parties, ils vont le confier à des entreprises qui sont spécialisées et qui ont un savoir-faire très particulier sur ces thématiques-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces fournisseurs, ce sont les mêmes pour Airbus et pour Boeing et pour Comac, par exemple, en Chine. Maintenant, les difficultés de supply chain actuelles, à quoi est-ce qu'elles sont dues? Elles sont dues à une tendance structurelle qui est du fait que quand on externalise des choses, ça prend plus de temps, on a plus de chances d'avoir des couacs, entre guillemets, dans la supply chain. Les chaînes logistiques, elles sont devenues difficiles, ou en tout cas, elles ont été mises en difficulté par la crise du Covid-19, dans un premier temps, avec des ruptures de charges, avec des fermetures de frontières, avec des manques ou des pénuries sur certaines ressources. Donc, elles ont commencé à souffrir très fortement avec la crise de 2020, ce qui a été amplifié par exemple, la crise et la guerre en Ukraine et les difficultés avec la Russie. Donc, on a finalement une vraie problématique sur les chaînes logistiques, sur les pénuries de ressources, de matières premières, de pièces détachées un peu partout. Ça, c'est un vrai. Et il y a un deuxième facteur qui explique aussi ces difficultés sur les chaînes logistiques, c'est le manque de personnel et l'attractivité du secteur aérien. Alors, quand on est Boeing ou quand on est Airbus, c'est assez facile d'attirer des salariés, des ouvriers, et encore, même si parfois, ce n'est pas toujours évident pour eux. En revanche, quand on est un fournisseur de premier, deuxième ou troisième rang pour Airbus, c'est-à-dire qu'on est le fournisseur d'Airbus ou le fournisseur du fournisseur d'Airbus, et qu'on va être une PME de 150 ou 200 salariés, ou qu'on ait une entreprise intermédiaire de 300, 400 salariés, et qu'on n'a pas la notoriété d'un Airbus ou d'un Boeing, d'un coup, on a beaucoup plus de mal à recruter des salariés, des ouvriers qui vont être compétents. Et le problème, c'est que en l'absence de ces salariés, de ces ouvriers, ces entreprises-là, elles ne peuvent pas produire les pièces qui vont après être assemblées par Airbus. Donc, en fait, C'est une tendance de fond actuelle. Il y a un certain nombre de démarches qui sont mises en place. On peut penser à des plans de communication mis en place par le GIFAS, par exemple. Mais c'est quelque chose qui reste assez difficile à faire.
Si on se tourne un peu plus vers l'avenir, on a connu une période assez faste en termes de nouveaux programmes avec, bah, vous l'avez mentionné, le 787, mais il y a aussi eu la 350, il y a eu le 320 Neo, il y a eu le 737 Max. Sauf que depuis quelques années, depuis que que les Neo sont arrivés, tout ça, on a un peu l'impression que ça s'est un petit peu asséché en termes de nouveaux programmes, que ce soit chez Boeing et Airbus, mais aussi chez les autres, parce qu'il y a une époque, il y avait le Sukhoi Superjet, Comac, qui semble un peu pas trop s'en sortir avec ces programmes. Où est-ce qu'on en est en termes de nouveaux programmes? Est-ce que les constructeurs semblent se reposer un peu sur l'existant ou est-ce qu'ils attendent des ruptures technologiques? Quel est un peu le point de vue qu'est-ce qui se passe un peu de ce point de vue-là?
Je pense que concernant les différents programmes, la situation elle va varier d'un constructeur à l'autre. Comac, si on commence par le plus petit, entre guillemets, Comac, ils sont contents d'avoir sorti le C919. Qu'il soit enfin certifié et commercialisé. Donc, pour le coup, je pense qu'il y a un peu de soulagement de leur part. Ils réfléchissent à des versions long courrier. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, pour eux, l'enjeu, c'est déjà de s'assurer de la commercialisation et de la production de leur avion. Pour Boeing, on a l'impression que l'enjeu pour eux à court terme, c'est plus un enjeu de production et de remonter en cadence de la production bien plus que le développement de nouveaux avions. Et d'ailleurs, que ce soit Airbus ou Boeing, en fait, ils ont un carnet de commandes qui est tel que si on venait à commander un avion aujourd'hui, on ne le recevrait pas avant 6, 7, 8 ans. Donc au final, à quoi bon lancer un nouvel avion puisqu'on est relativement tranquille? Mais donc pour eux, la priorité, en tout cas, elle est essentiellement sur la production. En revanche, pour Airbus, on sent qu'il y a un véritable pari qui est fait, qui est le programme 0E, donc 0I si on prononce en anglaise, donc finalement pour zéro émission. Et je pense que toute la priorité stratégique d'Airbus est là à court terme, c'est de savoir, finalement, et on revient sur cette question d'acceptabilité sociale et de légitimité à opérer. Airbus a bien conscience, parce que c'est justement une entreprise européenne, qu'ils ont besoin de développer un avion qui soit totalement vert. Et donc, pour le coup, tout l'accent est mis sur ce programme-là et qui va conditionner, d'une certaine façon, le futur d'Airbus. Et là, pour le coup, il y a des efforts de R&D qui sont assez massifs et qui sont très intéressants à suivre.
Si on élargit un petit peu vers le futur de l'Ariane, on a déjà parlé pas mal de défis. Quels seront les autres défis, éventuellement, les autres surprises auxquelles on s'attend de la part du secteur de l'aérien? Ou est-ce qu'on est plutôt face à une sorte de stabilisation post-Covid, d'essayer d'un peu de souffler, entre guillemets, suite aux années qu'on a connues assez difficiles quand même?
Alors, il y a différents sujets, à mon sens, qu'il faut traiter. Je pense que, nous, à l'échelle européenne, la problématique environnementale, elle est cruciale. C'est la priorité numéro un des constructeurs, des compagnies aériennes, des aéroports. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs qui sont continuellement contestés par les ONG, qui sont continuellement challengés par le régulateur et ne pourront pas continuer à opérer sans avoir fait un véritable effort dessus. Alors attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'effort, mais en tout cas, il faut qu'ils aillent encore plus loin pour pouvoir être tolérés par le reste de la société civile. Ce qui amènera à une deuxième question, qui est encore un sujet un peu tabou dans le secteur aérien, qui est celui de la sobriété. Jusqu'à présent, on a connu une période de croissance du trafic aérien avec des taux annuels de 3 à 4% par an, globalement un doublement du nombre de passagers tous les 15 ans. Est-ce que c'est durable? J'en suis pas certain. Et très probablement, peut-être que dans 10-15 ans, le nombre de passagers en valeur absolue, en tout cas en Europe, devrait baisser. Et donc, ça amènera à des questions qui seront très intéressantes pour les compagnies aériennes, pour les aéroports, sur comment est-ce qu'on va gérer une compagnie aérienne qui va offrir moins de destinations, qui aura moins de passagers, comment est-ce qu'elle va essayer de gagner de l'argent dessus. Sachant que, et là c'est une petite parenthèse, il n'y a aucune corrélation entre la taille de la compagnie aérienne et sa profitabilité. Donc, on peut être une compagnie aérienne qui voit son nombre de passagers baisser, mais au final, qui gagnera plus d'argent si elle vend moins de sièges, entre guillemets, à perte. Et donc ça, je pense que c'est un défi qui va être très, très important. Donc l'environnement, la sobriété, c'est quelque chose qui va jouer essentiellement en Europe. Et puis après, c'est ce qu'on se disait juste auparavant, une des grandes problématiques qui va surtout concerner l'Asie, même le reste du monde, mais en particulier l'Asie, qui va recevoir à peu près 40% des livraisons d'avions dans les 20 prochaines années, ça va être la montée en cadence de la production des constructeurs. Actuellement, toutes les compagnies aériennes, en particulier en dehors de l'Europe, se plaignent des délais des constructeurs, des délais pour la maintenance, parce que les constructeurs, les entreprises de MRO, donc de maintenance, en fait, ne sont pas en mesure de répondre aux attentes des opérateurs. Et donc là, la question, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut augmenter la rapidité de production.
Ainsi se conclut donc cette discussion. Paul, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler des aspects économiques du transport aérien.
Merci beaucoup, Antoine.
Ainsi se conclut donc le 138e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact@parlonsaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/138. Je tiens à remercier Paul d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler avec nous de ces sujets économiques. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 138e épisode de Parlons Aviation.